RCF.
Fabrice Grenard, le récit qu'on a fait de la résistance en France après la guerre a beaucoup évolué. Il y a eu toute une période où on avait le sentiment que la France entière s'était levée contre l'occupant nazi et contre Vichy. Puis une période dans les années 80 où, à l'inverse, les historiens ont vraiment mis en valeur le fait que très peu, finalement, de Français ont véritablement résisté au sens où on l'entend. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en dit globalement? Le curseur est mis à quel endroit?
On en dit que effectivement la résistance n'a été le fait que d'une petite minorité, mais la collaboration aussi d'ailleurs. Si on considère l'ensemble des personnes qui ont effectivement rejoint une organisation, un mouvement, un maquis, un réseau et qui ont eu une action réelle dans cette organisation, on est seulement à quelques centaines de milliers de personnes, peut-être à 1% de la population. Mais en revanche, si la résistance organisée était le fait d'une minorité, l'opinion était plutôt du côté de la résistance. Et les résistants ont toujours trouvé dans la société française les complicités que les collaborateurs, par exemple, n'ont jamais trouvées. Je prends juste un exemple. Lorsqu'un milicien est abattu dans des combats contre les maquis, bien que le régime de Vichy demande à ce qu'on lui fasse des funérailles importantes, etc., la population ne vient pas à ces funérailles, ou alors uniquement forcées. Lorsqu'un jeune maquisard est abattu, bien que ce jeune maquisard soit hors la loi, soit dénoncé par le pouvoir en place, bien souvent dans les villages, des milliers de gens viennent lui rendre hommage et assister à son enterrement, alors que c'est interdit. On voit bien donc que l'opinion penchait du côté de la résistance.
Est-ce qu'on peut considérer que les résistants de la dernière heure, ceux qui ont rejoint les rangs des réseaux résistants ou des maquis, alors que le débarquement s'annonçait, sont des opportunistes ou des gens qui ont eu moins de courage?
On a voulu, parfois à la fin de la guerre, surtout ce sont les pionniers de la résistance qui ont voulu faire ça, créer une forme de hiérarchie entre ceux qui avaient rejoint la résistance des 40 ou 41, qui seraient de vrais, de purs résistants, entre guillemets, et puis ceux qui auraient attendu que le sort de la guerre ait tourné en faveur des alliés, notamment après le 6 juin 44,
pour s'engager.
Et on les qualifie parfois de résistants de la dernière heure. Mais je n'aime pas beaucoup cette expression parce que, en réalité, ce n'est pas rien de s'engager le 6 juin 1944. Après tout, beaucoup de Français ou de Françaises
ne l'ont pas fait.
Et surtout, ceux qui s'engagent après le 6 juin, beaucoup sont jeunes. Ils veulent participer à la libération de leur pays. Et c'est entre le 6 juin 44 et la fin de la guerre qu'auront lieu sur le sol français les combats les plus durs, les plus terribles. Et c'est lors de cette période que les résistants vont payer les sacrifices les plus lourds. 15 000 FFI vont tomber entre juin 44 et le début 1945. Donc on ne peut pas dire que c'est un engagement de la dernière heure, puisque cet engagement, il est peut-être tardif, certes, mais il est réel et surtout, il prend la dimension extrême, celle de la lutte armée et bien souvent du sacrifice.
Qu'est-ce que c'est que les FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur?
La résistance avait différentes organisations et à l'approche du débarquement allié, pour mieux coordonner les actions, notamment les actions armées de la résistance avec la stratégie alliée, on a créé donc les Forces Françaises de l'Intérieur au début de l'année 1944, placées sous la direction du général Koenig, pour unir en fait l'ensemble des corps francs, des maquis, pour permettre de mieux partager les armes aussi et pour permettre de mieux participer à la stratégie alliée et peut-être d'éviter des actions trop isolées.
Dans les marches de débarquement, on était là, tendus comme des cordes de piano, parce qu'il fallait, on ne pouvait pas avoir une position de recul, il fallait tuer. La première fois de ma vie où le sentiment de volontaire de mort était là, il fallait tuer pour passer. Quand je suis arrivé sur la plage, bon, j'ai fait 10 mètres en entraînant mes hommes. Et quand j'ai fait 10 mètres, j'avais plus de jambes. Je suis tombé. J'étais enfoui dans le sable, j'ai baissé la tête et j'ai pleuré comme un enfant. Oh, pas longtemps. 300 ou 400 jours. Et je me suis dit, attention, t'es pas là pour t'attendrir, la guerre continue. Et il fallait reprendre. Mais j'avais retrouvé mon pays.
La suite de l'histoire.
Un témoignage émouvant, celui de Hubert Germain, le dernier compagnon en fait de la libération, Fabrice Grenard.
Effectivement, c'est l'un des tout derniers. Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, qui a aussi beaucoup témoigné à la fin de sa vie, nous a quittés il n'y a pas très longtemps. On est vraiment à un moment clé, celui où les témoins disparaissent. On revit ce qu'on a vécu avec la Première Guerre mondiale il y a quelques dizaines d'années. Et donc, ce qui renforce toujours plus, je pense, la nécessité du travail d'histoire. C'est aussi une façon de servir la mémoire.
Le FFI, auquel vous consacrez également un chapitre dans votre livre, c'est André Deléger, en Haute-Vienne, un homme, encore une fois, dont le parcours illustre cet engagement.
Tout à fait. Alors là, j'ai vraiment pris un résistant ordinaire. Le nom, je pense, est connu de personne, sauf peut-être de quelques Hauts-Viennois. Mais voilà, on a typiquement un jeune Français, un jeune paysan. Il habite près de Châteauneuf-la-Forêt. Il n'avait aucune action résistante avant le 6 juin 1944. Mais il sait qu'un maquis s'est développé dans le massif forestier voisin de son village. Et lorsqu'il apprend le débarquement, eh bien, il ne tient plus en place. Il veut lui aussi participer au combat pour la libération. Et donc, il va rejoindre ce maquis.
Il s'engage donc, il participe à la libération du pays. Ce sont des moments d'une intensité qu'on a du mal à imaginer probablement.
Bien sûr, en quelques jours, il n'a aucune expérience militaire. En quelques jours, il doit se former, apprendre à tirer avec une mitraillette, apprendre à lancer des grenades. Et il va très vite subir l'épreuve du feu puisque le maquis donc de Georges Guingouin, dans la Haute-Vienne, qu'il a rejoint, est attaqué par les Allemands le 16 juillet 1944. Donc un mois tout juste après que André Deléger ait rejoint le maquis. Et donc André Deléger va participer à ce qu'on appelle la bataille du Mont Gargan, où les maquisards de Haute-Vienne vont résister pendant quelques jours à plusieurs colonnes allemandes qui tentent de démanteler le maquis.
Faire partie d'un maquis, c'est aussi réceptionner des parachutages. En quoi ça consiste ?
Les maquis avaient besoin d'armes pour combattre et les parachutages permettent aux alliés d'envoyer ces armes dont ont besoin les maquis et les FFI. Les parachutages, il faut bien le dire, sont restés assez peu nombreux avant le 6 juin 1944, mais à partir du moment où les alliés ont aussi besoin de l'aide de la résistance intérieure, il s'intensifie donc en juin et juillet 1944. Et en Haute-Vienne notamment, un très grand parachutage a lieu le 14 juillet 1944 et André Deléger sera parmi ceux qui vont réceptionner les armes ce jour-là.
Qu'est-ce qu'il est devenu cet André Deléger ?
Alors sa trajectoire ne s'arrête pas avec la libération de la Haute-Vienne. Il participe à la libération de Limoges le 21 août 1944. Mais il y a ensuite ce qu'on appelle l'amalgame, c'est-à-dire que les maquisards, les FFI, vont être intégrés à l'armée régulière et vont participer, pour certains, eh bien, aux combats qui vont se développer dans l'est de la France, puisque les alliés progressent vers le Rhin, ils pénétreront même en Allemagne ensuite, et pour d'autres, aux combats qui se développent le long du littoral atlantique, puisque jusqu'à la fin de la guerre, les Allemands vont continuer à tenir des poches, des ports extrêmement bien fortifiés, comme Royan, par exemple, comme Saint-Nazaire. Et André Deléger va participer au combat de la poche de Saint-Nazaire qui vont se développer jusqu'à la toute fin de la guerre, donc jusqu'en mai 1945.
Est-ce que vous considérez, Fabrice Grenard, que notamment les Parisiens qui ont participé à la libération de la ville sont des résistants ?
Ah, bien sûr. À partir du moment où on est dans une logique de lutte, de combat, d'insurrection, à partir du moment où on prend les armes, comme ça a été le cas pour les Parisiens, on est des résistants. Tout le problème, c'est que parfois, effectivement, les catégories se brouillent. Les policiers parisiens, par exemple, qui se soulèvent le 15 août 1944, qui vont jouer un rôle très important dans l'insurrection et donc dans la libération de Paris, sont à ce moment-là des résistants, mais ils n'en étaient pas moins auparavant des hommes qui servaient le régime en place et qui collaboraient avec le vainqueur.
Quand vous dites que ça se brouille, c'est-à-dire on a du mal à les mettre dans un camp ou dans l'autre.
C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, on a parfois eu une vision manichéenne de la période où on a eu tendance à opposer de façon simpliste les collaborateurs d'un côté, ceux qui avaient trahi le pays, et les résistants de l'autre, ceux qui avaient sauvé l'honneur. Tout ça est très bien, mais lorsque l'on regarde de plus près un certain nombre de trajectoires, on voit aussi que parfois, on peut commencer du côté de Vichy et finir dans la résistance. Mais bon, heureusement, l'inverse a été beaucoup moins vrai.
Voilà, les historiens n'aiment pas bien le manichéisme, hein, Fabrice Grenard.
Non, surtout pour une période comme celle-là qui est complexe, qui est très ambivalente. Effectivement, comme je le disais dans une émission précédente, quelques-uns des premiers résistants, tout en étant résistants, soutenaient aussi le maréchal Pétain. Ce sont des choses qu'on avait du mal à percevoir à la fin de la guerre, dès lors que Pétain apparaissait comme l'homme de la collaboration. Voilà. Mais cette période, effectivement, est une période complexe et où il faut parfois, comme le disait l'historien Pierre Laborie, savoir penser double. On peut être sur différents niveaux d'interprétation.
Je recommande à nos auditeurs votre livre qui s'intitule « Le choix de la résistance, histoire d'hommes et de femmes 1940-1944 ». Un très grand merci, Fabrice Grenard, d'être venu nous parler de ces hommes et de ces femmes courageux. Votre livre paraît aux presses universitaires de France.
Merci beaucoup.
Et merci à Pierre-Henri Paget, qui est à la technique.